ce que j'adore à cet endroit-là, enfin l'endroit de la fête, c'est un espace où tout le monde a un savoir-faire, où tout le monde peut y apporter sa pierre.
Dans ce podcast, vous allez écouter Julien Marchesseau, directeur artistique de la compagnie Rara Woulib, fondée en 2009 à Marseille. Initiateur d'aventures festives collectives dans les rues de villes italiennes, anglaises, suisses ou françaises. Il était invité d'une rencontre intitulée « Demain, quelle fête dans nos villes ?» Demain, l'espace public est un cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire et Transat, programme d'urbanisme culturel. Chaque mois, des architectes, urbanistes, philosophes, artistes, anthropologues viennent échanger sur ce qui se fait déjà et sur ce qu'on pourrait imaginer demain pour rendre nos villes plus vivables, plus vivantes et plus vibrantes.
En 2014, Rara Woulib était présent sur la ZAD de Montpellier. Alors, en fait, on n'avait pas réussi à jouer, enfin, il y a eu quelques problématiques, on n'avait pas réussi à jouer ce Malbosque. Donc on avait décidé avec Pascal Lebrun-Cordier, on avait décidé de créer dans la ville, dans le centre-ville, des événements non annoncés, non convoqués. Donc il y avait une partie convocation, mais c'était vraiment quelque chose de très surprenant qui surgissait comme ça au milieu de la quotidienneté de la ville. C'était s'échapper du festival, s'échapper du format festival et du temps festival et venir habiter la ville dans sa vie quotidienne. Rara Woulib, c'est une compagnie qui est implantée à Marseille, qui est née en 2009. La plupart des gens qui composent ce collectif ne viennent pas du théâtre. Il y a une infirmière, il y a des éducateurs, il y a des photographes, il y a des cuisiniers. Il y a des gens qui ont une psychologue en milieu carcéral. Il y a des gens, bien sûr, des constructeurs, des musiciens, mais il y a des gens qui viennent de tous horizons, qui ont des vies, en fait, des parcours de vie autres. Je crois que c'est ça, en fait. On a tous des parcours de vie autres. Et l'art devient juste un endroit où on se réunit à un moment donné. Et je crois que notre histoire, elle se construit comme ça. Ce qui va aussi profondément impacter notre façon de voir les choses et notre façon de créer des projets qui sont intimement liés avec la ville, mais surtout avec les humains. Je pense que tous ces gens que je citais, éducateurs, infirmières, cuisiniers, je crois que vraiment l'enjeu même, l'essence même, c'est le rapport à l'humain. Rara Woulib, ça a construit ses premières créations dans une approche totalement transgressive, pirate, sauvage. À l'époque, on était un gros collectif et on avait une bonne capacité à pouvoir prendre la ville, prendre ses rues. Nos premiers temps de création, on les a réalisés dans la ville elle-même, en piratant la ville, en fermant les avenues à la circulation, en réouvrant les parcs, en transformant des bâtiments du patrimoine de manière non autorisée. On peut dire. Et je crois vraiment que notre âme, notre ADN se trouve à cet endroit-là. Et aujourd'hui, évidemment, on est passé à un mode à travailler avec des festivals, des réseaux, des villes et tout. On n'a pas tout à fait la même approche illégale. Mais par contre, ça influe profondément sur comment on va occuper cet espace public coûte que coûte et comment on va détourner la réglementation. Je pense qu'avec le temps, on est devenus des experts de la réglementation. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on est vraiment des bons experts de la réglementation et on sait comment l'infiltrer, la contourner, la détourner. Et on arrive à réaliser plein de choses, même dans des temps très très courts. Il y a une certaine précarité. Quand on veut réaliser un spectacle en espace public, des fois il faut s'y prendre 4 mois à l'avance pour avoir une autorisation. Et c'est vrai qu'il y a certaines fois, en fonction d'avec qui on travaille, par exemple la fête vagabonde, donc c'était un projet réalisé avec des personnes en situation de grande précarité ou avec des parcours en santé mentale, donc des gens vraiment multiples, mais qui eux-mêmes vivent dans une certaine précarité. On ne pouvait pas se permettre de préparer quelque chose 4 mois à l'avance. Il fallait cette immédiateté. Donc comment on va inventer des dispositifs, des façons de faire qui nous permettent d'être en accord avec ces moments présents et avec la réalité de chacun. En même temps, sans jamais mettre en danger les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont en situation régulière, qui travaillent avec nous, on ne peut pas les mettre en danger. Donc aujourd'hui, c'est comment on reste dans la légalité tout en infiltrant et contenant la réglementation. La fête vagabonde qu'on a réalisée donc avec plusieurs personnes, avec une centaine de personnes hein, dans des situations plus ou moins complexes. C'était en juin 2019. On l'a construit avec le festival en partenariat avec le festival de Marseille qui a joué le jeu. On n'a pas demandé justement pour des raisons de précarité et on ne pouvait pas organiser ça 4 mois à l'avance. On a inventé un dispositif qui nous permettait de ne pas demander de ne pas déclarer et de ne pas demander d'autorisation. En gros, on a joué sur le débordement de l'espace privé. On avait un réseau de bars et restaurants, parce qu'on organisait cette fête avec le Carillon, qui est une structure qui met en lien des commerces avec des personnes en situation sans domicile fixe. Et en gros, à chaque fois, on avait donné rendez-vous aux gens. Donc, on a traversé le centre-ville de Marseille pendant 5 heures. Et cette traversée était, en fait, c'était une succession de rendez-vous et de dispersion. Et à chaque fois, on se donnait rendez-vous dans un restaurant. Mais comme on était 600, on débordait sur l'espace public. Mais on restait une 30 minutes pour pas non plus créer trop de nuisances, de bruit, etc. pour le voisinage. Donc il y avait vraiment cette mobilité et à chaque fois on se rassemblait puis on se dispersait, on se rassemblait puis on se dispersait. Et on a traversé toute la ville comme ça pendant 5 heures, comme une grande manifestation. Il y a une grande aventure hein, qui nous occupe depuis maintenant 2 ans, c'est l'après-m, donc un ancien McDonald's qui a été récupéré par les anciens employés. Donc pour la faire vraiment court, c'est un McDonald's, ça y est, dans les quartiers nord, dans un endroit névralgique des quartiers nord, la place du village. C'est vraiment un espace qui n'appartient pas à un seul quartier, mais qui est limitrophe avec une multitude de grands ensembles des quartiers nord de Marseille. Et cet endroit, donc ce McDonald's, a été le théâtre d'une lutte syndicale acharnée de la part des anciens employés qui se sont battus pour obtenir tous leurs droits, les droits les plus fondamentaux, le droit du travail, et qui ont piloté cette lutte, ont bloqué tout le sud de la France, tous les entrepôts, et ont réussi à avoir gain de cause à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment une lutte avec des employés qui se sont formés au fur et à mesure, qui sont devenus, pour certains, juges des prud'hommes. Et toute cette connexion-là, toute cette lutte-là s'est diffusée, parce qu'ils ont établi des connexions avec les McDo de plein d'endroits en France, avec Londres, avec Chicago, et ils ont diffusé justement le résultat de leur lutte, en se disant, non, c'est pourquoi nous et pas eux. Et ça, McDo a vraiment, n'a pas du tout aimé, et jusqu'au moment en plus où ses anciens employés, alliés à certains syndicats, ont réussi à faire condamner McDo pour évasion fiscale. 1,227 milliard d'euros de condamnation. McDo a annoncé qu'ils allaient payer cash pour éviter de faire appel et de redonner du média sur cette affaire. Ils ont réussi, après une guerre acharnée, à faire fermer ce McDo, fermeture administrative, en décembre 2019. Mais en mars 2020, le confinement et une crise alimentaire assez très grave dans les quartiers nord. Les anciens employés réouvrent le bâtiment, utilisent le McDonald's comme une zone logistique pour la distribution alimentaire. Et toutes les assos de distribution alimentaire s'organisent autour de ce lieu. Et ce qui devient, il se substitue totalement à l'État. Et en fait, en l'espace d'une semaine, ils déploient une logistique, mais c'était des dizaines de milliers de colis servis. Et nous, on arrive en tant qu'artistes, on est quelques artistes à arriver en novembre 2020 et commence une aventure commune avec les anciens employés, avec les bénévoles. Et tout ça, ça forme vraiment un collectif. On commence par transformer le bâtiment avec les artistes, les anciens employés, où on repeint totalement le McDo, on transforme l'enseigne et on lui donne un statut de sculpture. Ça devient l'après-m, l'association de préfiguration pour un restaurant économique et solidaire. On a un roi de l'acronyme qui s'appelle Fatih Bouara. Il y a des gens complètement extraordinaires dans cet endroit-là, des gens qui sont profondément engagés. Et depuis 2 ans, on est dans un travail vraiment collectif avec des personnes qui ont des parcours de vie totalement différents, des gens qui ont été formés à McDo, des bénévoles, des mamans. En fait, il y a une multitude de personnes qui œuvrent dans cet endroit-là. Et pendant 2 ans, nous, en tant qu'artistes, moi, j'ai travaillé plutôt à l'endroit de la mise en récit, d'organisation des fêtes. De fêtes qui ont ponctué la lutte et qui ont permis de mettre en récit aussi, de valider certaines étapes. Par exemple, le lancement de la campagne de rachat où en fait l'association décide de monter la SCI, Société Citoyenne Immobilière, pour demander aux citoyens de racheter le McDo avec des parts à 25 euros. Le lancement de la SCI, je crois qu'on a 8000 adhésions en l'espace d'une semaine, qui va, je pense, profondément influer sur la déclaration de la mairie de Marseille qui, une semaine après, décide de racheter le lieu et de le mettre à disposition de ce collectif. Ce que j'adore à cet endroit-là, enfin l'endroit de la fête, c'est un espace où tout le monde a un savoir-faire, où tout le monde peut y apporter sa pierre. Et ça, ça rend fier aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a une question de fierté de se dire j'ai participé à quelque chose qui me dépasse. Moi, je fais ce métier pour ça, en fait. C'est de construire des choses qui, in fine, me dépassent totalement. Et je crois que pour tout le monde, c'est aussi un endroit, en effet, de la fierté. C'est un endroit aussi où on peut être. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le seuil d'accueil qu'il peut y avoir à l'endroit de la fête. C'est cet endroit où on peut être soi-même. Là, je vois, par exemple, on avait construit cette grande fête avec des personnes en situation de handicap psychique, physique, social. Et en fait, in fine, à cet endroit-là, tout le monde peut être qui il veut. Soit, mais quelqu'un d'autre. C'est un espace du jeu, c'est un espace du bluff, c'est un espace temporaire aussi, où on se voit, on se rencontre pour juste un instant. Il y aura sûrement pas de lendemain. Et je pense que c'est ça qui offre à la fête cette capacité à accueillir de manière inconditionnelle.
C'était Julien Marchesseau, directeur artistique, invité de Demain l'espace public, cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture, Occitanie Méditerranée, l'ASAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Sur le même sujet, nous vous suggérons d'écouter l'entretien que nous avons réalisé avec l'anthropologue Emmanuel Lallemand. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture 2028.